c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Aujourd'hui, nous allons évoquer Frédéric Chopin. Connaissez-vous cet air ? C'est la polonaise numéro 6 de Frédéric Chopin. Il en a composé 13. Elles sont inspirées de danses folkloriques et respirent toute la nostalgie et l'amour de la patrie. Cette patrie, la Pologne, occupée depuis le 18 septembre 1830 par la Russie. Mais la révolte gronde. On entend dans cet extrait le rythme fougueux et martial qui lui a valu le surnom d'héroïque. D'ailleurs, le compositeur Robert Schumann, pour illustrer la résistance polonaise, qualifie les polonaises de Chopin de « canons enfouis sous les fleurs ». Ce qui caractérise Chopin, en effet, c'est l'amour de la patrie, dont il veut faire connaître l'histoire dramatique. Il en est parti juste avant l'insurrection de Varsovie, qui a déclenché la répression russe. La Pologne n'est plus un pays, elle est rayée de la carte. C'est le moment de l'éveil des nationalités, partout en Europe, depuis la révolution des Trois Glorieuses en France. Mais Chopin ne fait guère de politique, il est tout entier voué à son piano. Frédéric Chopin est né près de Varsovie, le 1er mars 1810, d'un père français et d'une mère polonaise. C'est elle qui lui a donné sa première leçon de piano lorsqu'il avait 6 ans. Ensuite, son professeur, tchèque, lui communique les deux passions qui vont l'inspirer toute sa courte vie, Bach et Mozart. À 7 ans, il compose une polonaise et une marche militaire. Son premier concert, il le donne à l'âge de 8 ans. Et déjà, il est salué comme un génie musical en tant qu'interprète. Et il est réputé aussi comme compositeur. C'est donc un enfant prodige comme Mozart. Mais c'est aussi un enfant très enjoué, doué pour le dessin, le théâtre et les imitations. Et c'est lors de ses vacances à la campagne avec ses parents qu'il a le premier contact avec le folklore et les musiques paysannes, surtout les danses, appelées mazurka, qu'il a reprises et enjolivées de nombreuses fois. Écoutons la mazurka en ré dièse. Le thème est plein d'allant au départ, puis le couple de danseurs semble faire une courte promenade. Enfin, sous l'impulsion du rythme, on retrouve la mélodie, à la fin. Est-ce que cela ressemble à de la valse ? Quelle est la différence ?
Thank you.
cette musique est écrite à trois quarts temps, la mesure de la valse. Mais ici, l'accent tombe sur le deuxième temps, c'est-à-dire le temps faible, alors que la valse accentue le premier, vite, vite, lent. Ici, la mazurka donne vite, vite, lent. Quelles sont ses sources d'inspiration? Eh bien, le grand Rossini l'inspire beaucoup. Nous en avions parlé de Rossini lors de notre première émission. En 1826, Chopin compose une variation pour flûte et piano sur un thème de Rossini. L'année suivante, ces variations sur Don Juan provoquent chez Schumann la fameuse exclamation « Chapeau bas, messieurs, un génie !» À 18 ans, il quitte son pays natal pour se faire connaître à l'étranger. Il voyage d'abord à Berlin, où il va écouter des opéras. L'année suivante, en 1829, à Vienne, il est accueilli par les milieux aristocratiques. Il donne deux concerts, mais il ne gagne pas un sou. Dans cette capitale de la valse, il compose sa grande valse brillante. C'est aussi la date à laquelle l'ingénieur Stephenson met au point avec son frère une locomotive à vapeur capable d'assurer la liaison Liverpool-Manchester, les deux grandes villes industrielles, à 50 km/h. À cette époque, c'est une vitesse incroyable. On appelle donc cette première locomotive à vapeur la roquette, la fusée. Chopin rentre alors à Varsovie, où il tombe amoureux de Constance. Mais trop pudique pour exprimer son amour, il le traduit dans deux concertos virtuoses et lyriques. Nous allons écouter le concerto pour piano numéro 2, donné lors de son premier grand concert public au Théâtre National de Varsovie, en mars 1830. Varsovie à la veille du soulèvement contre l'occupation russe. Arrivé à Vienne, l'insurrection a éclaté. Il voudrait rentrer et aider les siens, mais son père lui écrit de n'en rien faire. Chopin regrette de ne pas participer à la lutte, mais il le fait à sa manière à travers la musique, entouré de nombreux exilés. Plus de 10 000 Polonais ont émigré en Europe pour fuir les persécutions russes. Lors de cette catastrophe, la Pologne n'existe plus. Une caricature montre que le boisseau a été mis sur la bougie, pour éteindre le sentiment national polonais. La capitulation de Varsovie le 18 septembre 1831 lui inspire son étude révolutionnaire. Il met sa musique au service d'une nation meurtrie qui refuse de se soumettre. Vous allez écouter la main droite qui semble pleurer, tandis que sous la main gauche, la révolte gronde. Il arrive à Paris à l'automne 1831, il a 21 ans. Il a tout de suite le coup de foudre pour Paris, qu'il appelle le plus beau des mondes. Et Paris est la capitale européenne de la musique à l'époque. Il y donne son premier concert en février 1832. Ses amis musiciens sont venus l'encourager. En particulier Liszt, qui a beaucoup joué l'œuvre de Chopin. Plus que Chopin lui-même d'ailleurs, qui n'aime pas du tout se produire en public. Chopin se confie à Liszt. « La foule me terrifie. J'étouffe en son sein. Les regards fixés sur moi m'effraient. La vue de visages inconnus me paralyse. » Avec le choléra, la ville de Paris se vide à l'été 1832, faisant des milliers de morts. Chopin pense partir en Amérique, mais il fait une rencontre dans les rues par hasard. Il rencontre un patriote et son avenir bascule, car celui-ci l'entraîne à une soirée musicale chez le baron Rothschild. Il est invité à jouer et il conquiert immédiatement son auditoire. À partir de là, il n'a plus besoin de faire de concerts, il donne des leçons et en retire de très bons revenus qui lui permettent de se consacrer à la composition. Dans ce milieu qui fait et défait les réputations comme bon lui semble, il trouve des admiratrices sincères qui sont d'ardentes propagatrices de son œuvre, comme Clara Wieck Schumann, dont on a parlé lors d'une précédente émission. Dans cette période mondaine, il devient l'artiste le plus recherché de Paris. Il compose un impromptu pour les salons parisiens. Thank you. Les salons sont pour lui le lieu idéal pour jouer ses valses, ses études et ses nocturnes. C'est le compositeur irlandais John Field qui a inventé le concept musical de nocturne. Il le définit comme une courte rêverie musicale, chanson sans paroles, qu'on aime écouter le soir à la tombée de la nuit. Mais Chopin a magnifié le genre. À partir d'un thème simple, il déroule une mélodie poignante. Ses pièces sont propices à la méditation, la réflexion. Elles laissent à l'auditeur une émotion persistante. Ses drames personnels sont aussi une source d'inspiration. C'est après la rupture de ses fiançailles qu'il compose la fameuse marche funèbre de la sonate numéro 2 en 1837.
Thank you.
Heureusement, sur ces entrefaites, il fait la rencontre de George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin. Il ne l'a pas du tout appréciée au premier abord. Il se demande si c'est vraiment une femme. Bien sûr, elle est habillée en homme. Et elle a pris un prénom d'homme, George, pour pouvoir se faire éditer. Sinon, une femme, on n'allait pas l'éditer. Tout en prenant soin d'enlever le S final pour le féminiser. Donc George sans S. George Sand vient le voir à Paris. Elle vient l'écouter. Et il devient fou amoureux d'elle. Quant à elle, elle le protège comme un enfant. Elle l'aime plutôt d'un amour maternel. Leur liaison dure 9 ans. À cette époque, Chopin est atteint de la tuberculose. Il crache le sang. Croyant pouvoir le soigner dans un climat doux, George Sand l'emmène pour l'hiver 1838 à Majorque. Mais c'est la saison des pluies. Et lorsqu'il s'installe dans la magnifique chartreuse de Valdemossa, l'humidité aggrave plutôt son cas, sa maladie. Pleyel lui envoie un piano sur lequel il achève ses 24 préludes. Citons George Sand. C'est à Valdemossa que Chopin a composé les plus belles de ses courtes pages qu'il intitulait modestement « Les préludes ». Ce sont des chefs-d'œuvre. Plusieurs présentent à la pensée des visions de moines trépassés. Ils sont dans une demeure anciennement monastique. Et l'audition des chants funèbres qui l'assiégeaient. D'autres sont mélancoliques et suaves. Il lui venait aux heures de soleil et de santé, au bruit du rire des enfants sous la fenêtre, puisque les enfants de George Sand sont de la partie, au son lointain des guitares, nous sommes en Espagne, au chant des oiseaux sous la feuillée humide, à la vue des petites roses pâles épanouies sur la neige. D'autres encore sont d'une tristesse morne, et en vous charmant l'oreille, vous navre le cœur. De retour en France, il s'installe à Nohant, dans le Berry, chez Georges et ses 2 enfants. Il se sent dans un cocon, entouré d'une famille chaleureuse. Il compose tous les étés dans cette campagne berrichonne. Le reste du temps, ils vivent à Paris. À Nohant, Georges tient salon. Les artistes, les gens du monde s'y croisent. C'est l'occasion pour lui de rencontrer des amis. La cantatrice Pauline Garcia Veillardot, avec qui il joue en concert à Paris. C'est une grande amie de Clara Schumann également. Il se fait ami aussi avec le peintre de la croix qui fait son fameux portrait que l'on peut voir au Louvre aujourd'hui. Le portrait peint est encore très à la mode, même si la photographie vient de faire un pas de géant en cette année 1839 avec le daguerréotype, du nom de Louis-Jacques Daguerre, qui a découvert le premier dispositif permettant d'enregistrer les images. Mais en 1847, c'est la rupture avec Sand. Elle se jette dans les combats de 1848, soutient la Révolution. Elle se tourne vers le socialisme. Lui ne s'intéresse pas du tout à la vie politique. Son élan créateur semble cassé. Mais sa tristesse est magnifiquement sublimée dans son nocturne numéro 20. Nous allons écouter ici ce nocturne joué par Chanel Vang lorsqu'elle avait 17 ans. Cette jeune prodige est née aux États-Unis et a été élevée à Taïwan. Elle a joué son premier solo à l'âge de 6 ans, aussi précoce que Chopin et Mozart. Ce morceau est repris dans le film The Pianist, dans la dernière scène où l'acteur Adrien Brody joue le rôle du pianiste juif polonais Vladek, qui parvient à s'échapper de justesse du ghetto, en passe d'être liquidé par les nazis après son insurrection. Il se cache dans un petit grenier de la ville, jusqu'à ce qu'un officier allemand le découvre. Celui-ci sait que les Allemands vont perdre la guerre, car l'entrée des soviétiques dans Varsovie est imminente. L'officier allemand décide alors de procurer au pianiste la nourriture nécessaire pour sa survie, en échange de quoi il lui demande de jouer du Chopin, que l'Allemand admire. Vous souvenez peut-être de cette scène où on voit l'officier allemand au pied de l'escalier. Il n'est pas dans la salle où joue le pianiste, il l'écoute à côté. Ce film de Polanski a reçu la Palme d'Or à Cannes en 2002, ainsi que 7 Césars et 3 Oscars en 2003. Vous le voyez, Varsovie est à nouveau martyrisée pendant la Seconde Guerre mondiale, comme à l'époque de Chopin au XIXe siècle. Chopin voyage alors en Angleterre et en Écosse, mais les concerts l'épuisent. Il meurt à Paris, le 7 octobre 1849. Il n'a que 39 ans. La marche funèbre qu'il a composée est jouée lors de ses funérailles, suivie du requiem de Mozart qu'il aimait tant. Analysons maintenant le phénomène Chopin. Voir jouer Chopin fascinait le public. Comme le dit si bien Heller, C'est un étonnant spectacle de voir une de ses petites mains s'étendre et couvrir un tiers du clavier. C'est comme la bouche d'un serpent qui va engloutir un lapin. En réalité, Chopin est en caoutchouc. Et quel est donc le secret de Chopin pour faire des gammes si coulées sur le piano? Le secret de Chopin, c'est le rubato, qu'on peut définir comme un temps dérobé. C'est une liberté de mouvement laissée à l'interprète dans certains passages, où il peut tenir à volonté certaines notes et passer plus vite sur d'autres. Liszt expliquait cela par une image. Imaginez un arbre que le vent fait ployer. Entre ses branches passent les rayons du soleil et la lumière tremblotante qui en résulte, c'est le rubato. Chopin est considéré comme un classique et non un romantique. Et pourtant, dans ses œuvres et dans son jeu, l'alternance entre sérénité et soudain déchaînement de violence, entre repli sur soi et révolte, a tout d'un état d'esprit romantique. Il réconcilie les savants et les sensibles. Il est savant dans le classicisme et sensible dans le romantisme. Sa postérité est immense, on parle de phénomène Chopin. Et pourtant, il revendiquait une triple originalité par rapport aux objectifs des autres musiciens de son temps. Le piano plutôt que la collectivité orchestrale, les petites formes plutôt que l'opéra ou la symphonie, un cercle restreint de fidèles et d'admirateurs plutôt qu'un vaste public. Il était donc hors norme. C'est un des musiciens les plus joués en concert et les plus enregistrés de nos jours. Son œuvre attire le public et les jeunes pianistes du monde entier. Il est joué aussi bien par des Russes, des Polonais, mais aussi des Iraniens, des Chinois, des Japonais. Ce phénomène échappe donc aux limites culturelles du monde occidental. Citons à nouveau George Sand. Le génie de Chopin est le plus plein de sentiments et d'émotions qui ait existé. Il a fait parler à un seul instrument, la langue de l'infini. Il a pu souvent résumer en 10 lignes qu'un enfant pourrait jouer, des poèmes d'une élévation immense, des drames d'une énergie sans égale. Il ne lui a fallu ni saxophone, ni ophicléide pour remplir l'âme de terreur, ni orgue d'église, ni voix humaine pour la remplir de foi et d'enthousiasme. Un ophicléide, c'est un instrument à vent, en cuivre qui ressemble à un tuba. On l'employait au XIXe siècle dans les églises et les orchestres symphoniques. Pour illustrer cela, nous allons écouter la valse opus 64 numéro 2 que ma fille aime jouer. Ici, nous allons l'entendre par la pianiste concertiste franco-géorgienne que vous voyez souvent à la télévision, qui est très belle et formidable, Katia Bouniachvili. Elle le joue tempo giusto, comme indiqué par Chopin sur la partition, c'est-à-dire à jouer selon le rythme propre à chacun. C'est le temps juste, modéré, proche de l'andante, qui marque bien les notes. C'est à mon sens le plus beau testament qu'a fait Chopin aux musiciens. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.